Direct en jeu, la radio insolite. Nous aimons notre métropole, nous aimons, enfin, notre grand Lyon, nous aimons notre département du Rhône. Et puis, je peux pas dire que nous aimons Lyon parce que Direct en jeu est basé à Villeurbanne. Mais vous savez que Villeurbanne, ah, c'est juste à côté, quoi. Il y en a certains qui disent que c'est le 10e arrondissement de Lyon. Et là, nous sommes dans le vieux Lyon avec un petit jeune. Ou nous sommes dans le jeune Lyon avec un petit vieux, je me rappelle plus. Bonjour Frédéric.
Bonjour, oui, ça me va bien, petit jeune, ça me va bien.
Alors, donc, on est avec un petit jeune dans le vieux Lyon.
Voilà.
Parfait. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Donc, Frédéric Coria, actuellement, donc je suis président de la Renaissance du Vieux Lyon.
Président, bonjour.
C'est-à-dire,
Il faut t'appeler président? Faut t'appeler comment?
bon, Frédéric, c'est grave. Voilà.
D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est la Renaissance du vieux Lyon, s'il te plaît?
Alors, c'est une association qui a été créée en 46, à une époque où le quartier, plus personne n'y venait parce que c'était très sale, très gris, très abîmé. Et finalement, eh bien, à force de faire, essayer de faire connaître les cours, il y a eu des éclairages, par exemple pour un 8 décembre. Il y a eu une grande bataille juste après la Deuxième Guerre mondiale contre la destruction de la ville. C'est l'association qui a permis de sauver vraiment le quartier de la destruction. Il y a du Larsen là, non?
Non, non, pas de problème, ça continue sans
Non? Ah
problème pour
bon,
moi.
j'ai un retour, excuse-moi. Donc, ils se sont battus et c'est en 64, donc, ça a été le premier secteur sauvegardé de France. Et le deuxième grande période, disons, c'est les années 96 à 98, où, en travaillant avec l'équipe, donc, à l'époque de Raymond Barre, qui était maire, on a permis de faire classer non seulement le Vieux Lyon, mais tout le site historique, donc, parmi le patrimoine mondial, reconnu par l'UNESCO. Voilà. Donc c'est ça le travail, mais on est aussi comité d'intérêt local, donc on n'est pas que sur les vieilles pierres, hein, on représente bien aussi les habitants.
Alors, le vieux Lyon, bah, nous qui connaissons Lyon, c'est où est-ce que c'est? Mais si on doit, sur une carte, essayer de matérialiser le vieux Lyon, c'est où? C'est sur la presqu'île? C'est sur la rive gauche, la rive droite?
Alors en fait c'est tout petit, c'est une toute petite bande de terre qui est coincée entre la Saône et la colline de Fourvière, je dirais les pentes de Fourvière même. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très très étroit. Il y a à peu près 200, enfin beaucoup de maisons, disons très anciennes, sur un secteur très très localisé. Mais c'est vrai que c'est très petit et sur une carte, il faut le chercher.
D'accord. Et le vieux Lyon, c'est vraiment parce que c'est la tradition, tout a démarré là-bas?
Alors pas exactement en fait. Hein. On pourrait dire que l'histoire de Lyon a plutôt commencé du côté de Vaise si on va chercher sur la préhistoire. Si on va chercher sur la période donc pré-romaine, on a vraiment au confluent, qui était à l'époque plus haut que la place des Terreaux, donc ce qu'on appelait Condat. Donc là, on était à ce niveau-là sur un franchissement de la Saône, puisque le Rhône était dangereux. Et puis après, bon, bah, la fondation romaine s'est fait, semble-t-il, sur des fortifications qui existaient en fait déjà à l'époque celte. C'est-à-dire que la colline de Fourvière n'a pas été disons urbanisés par les Romains, mais ce sont les Romains qui ont installé un camp militaire à l'endroit où il semble vrai qu'il y avait déjà des fortifications à l'époque celte. Voilà.
D'accord, ok.
Donc le Vieux Lyon, c'est en bas, en fait. Hein. Le Vieux Lyon, on dirait que ça s'est surtout développé justement après cette période romaine où les aqueducs ne permettaient plus d'acheminer l'eau jusque sur le plateau de la Sarra, le plateau de Fourvière. Et donc, bah, l'urbanisation est descendue en bord de Saône, puisque c'est là que tout passait.
Est-ce qu'il y a un monument symbolique, un monument de référence pour toujours donner des repères ou pour dire où se trouve le vieux Lyon?
Bah, actuellement, le monument de référence est celui qui porte aussi la partie centrale, disons, du quartier du Vieux-Lyon, c'est-à-dire c'est peut-être bien quand même la primatiale ou cathédrale Saint-Jean,
Voilà,
qui se
exact.
trouve.
Comme ça donne des repères.
Tant qu'à faire, et en plus c'est une station de métro, donc c'est pratique pour trouver. Hein.
D'accord. Tu as lancé une info importante. Tu viens de lancer une information sur le post-confinement qui s'appelle Pas de retour à la normale dans le vieux Lyon. Sauf que la normale, tu l'écris pas de la même manière.
Exactement. Donc là, on a fait un jeu de mots volontairement, puisque bon, beaucoup actuellement attendent avec impatience la fin du confinement et un retour à la vie normale.
Oui.
Donc là, normal en deux mots, et nous c'est L apostrophe anormal, puisqu'on estime, et on s'en rend d'autant plus compte, je suis habitant du Vieux Lyon, hein, je ne suis pas que président de l'association qui a son siège dans le Vieux Lyon, et on se rend compte que finalement la ville est complètement transfigurée par cette absence de passage dans les rues, même sur le quai.
Tout à fait.
Et ma foi, une normalité telle qu'elle était avant le confinement ne nous tente pas forcément. Je crois que dans plein d'endroits, beaucoup de gens pose, disons, des tas de questions et se demande si vraiment il faut refoncer dans la même direction quand on voit toutes les catastrophes climatiques, hein, climatiques, écologiques, qui sont devant nous si on ne change rien. Là, c'est vraiment un moment qu'on utilise pour se poser, pour se dire, mais enfin, on ne va pas reprendre après comme si de rien n'était. Notre but n'est pas de nous battre pour qu'on recommence tout comme avant, puisqu'on sait qu'on est les gens du mur.
Est-ce que c'est la décision de Venise qui t'a inspiré ou qui a inspiré les commerçants, les artisans concernés par toute la démarche? Parce que Venise a décidé de dire stop au tourisme de masse.
Alors complètement, complètement. Hein. Il y avait déjà des réactions de Venise, de Barcelone, de Berlin. Enfin, on a plusieurs villes comme ça. On voit très bien aussi la catastrophe que représente le tourisme pour Dubrovnik. Hein, effectivement, le bâtiment est magnifique. Effectivement, la citadelle a été magnifiquement reconstruite même après la guerre. Mais les habitants, les pauvres, c'est absolument invivable. Et même, on peut dire ça pour une petite partie du centre de Naples. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça où on se rend bien compte que les habitants sont chassés par une augmentation du prix de l'immobilier. Et du coup, tous les commerces ne sont plus tournés vers les habitants, mais uniquement vers les touristes. Ce qui rend les secteurs, les centres-villes extrêmement fragiles. Il se trouve que là, bon, on sortait juste d'une campagne électorale. Enfin, finalement, on est à nouveau dedans, puisqu'on est entre les deux tours maintenant. Et on avait rencontré à peu près tous les candidats, aussi bien aux élections municipales qu'aux élections métropolitaines. Et on commençait systématiquement notre rencontre en disant, bon voilà, on est apolitique, on travaille avec tout le monde, voilà. Et la deuxième chose, c'était pour nous aujourd'hui, la situation du Vieux-Lyon est extrêmement fragile. On a une monoactivité qui est basée sur le tourisme, la restauration. Et si demain, pour une raison plus directe, on nous dit fermer les restaurants, le quartier est mort. Ben, 2 semaines après, le quartier était mort. On n'aurait jamais cru, hein, on n'aurait jamais cru que ça arrive aussi vite. Et là, on se rend bien compte, effectivement, il y a des bouts entiers de rues, enfin des rues entières, parce qu'ils sont vides, il n'y a plus de vie du tout au rez-de-chaussée, il n'y a plus rien qui est fait pour les habitants.
C'est important ce que tu dis parce que tu insistes d'une part sur le fait que les commerçants mais ne sont plus des commerçants de tous les jours, mais c'est plus du commerce touristique avec tous les défauts qu'il y a. Et puis aussi en termes d'habitation. Tu dis souvent que les locations touristiques ont vraiment fait flamber les prix et ne permettent pas à des Lyonnais de pouvoir s'installer. De plus en plus, on voit des Lyonnais quitter la ville de Lyon, quoi que puisse dire l'office de tourisme ou la mairie. C'est quelque chose qui pèse énormément dans l'image de ce vieux Lyon.
Tout à fait. Alors, je voudrais pas qu'on comprenne en fait que la Renaissance du Vieux-Lyon est contre le tourisme. Il se trouve qu'on est aussi administrateur et qu'on travaille beaucoup avec l'office du tourisme. On travaille vraiment main dans la main sur plein de choses avec la ville, aussi bien donc la ville, enfin, la mairie centrale que la mairie d'arrondissement. Mais c'est vrai que on a parfois bon, des désaccords, c'est normal. Hein. Mais tout le monde essaie d'avoir ce qu'on appelle maintenant un tourisme durable, qui respecte un peu le secteur. Alors, la gentrification, elle n'a pas commencé avec Airbnb dans les centres-villes en Europe. Hein. Ça fait une vingtaine d'années
Ah,
maintenant
tout à fait, complètement.
que c'est. On voit bien le retour en fait dans la ville des classes aisées qui fait déjà augmenter les prix de l'immobilier. Mais l'explosion, moi j'habite depuis 2003 dans le Vieux-Lyon. Hein. L'explosion a moins de 10 ans. L'explosion sur les prix de l'immobilier et le fait que les gens qui viennent s'installer, à moins d'avoir certains métiers bien payés, ne sont presque plus des familles. Il y a beaucoup de colocations, de plus en plus, et il y a beaucoup de locations touristiques, saisonnières, en fait très courtes, du type Airbnb, qui font que là, par exemple, à 20h, quand on applaudit pour les soignants dans la rue, ou même le soir en général, on se rend bien compte qu'il y a très peu d'endroits qui sont éclairés. Hein. Il y a des immeubles entiers qui sont vidés de leurs habitants. Alors je sais, certains ont peut-être des résidences secondaires et se sont sauvés dès le confinement. Mais on voit bien, nous, même le reste de l'année, quand il n'y a pas de confinement, que ça tourne énormément en face de chez nous. Ce sont manifestement pas des gens qui habitent ici, ce sont des gens qui ne font que passer 3 jours, peut-être une semaine maximum.
D'accord. Est-ce que la notion de mettre en valeur le quartier, c'est une notion qui est importante?
Alors c'est très important, effectivement. Et quand on dit mettre en valeur, ça ne veut pas dire uniquement attirer les touristes qui ne font peut-être que 2 heures dans le quartier. C'est vraiment attirer durablement et aussi faire revenir les Lyonnais et les grands Lyonnais.
C'est.
On s'est rendu. Non, mais c'est important parce que pour les commerces, par exemple, hein,
Alors,
on
j'explique.
voit très bien.
Ouais,
Vas-y.
je t'explique pourquoi. là, je vais être brut de décoffrage et ça, le commentaire que je vais faire m'appartient, mais appartient aussi à pas mal de gens. Le plus beau souvenir du 8 décembre qu'on a, c'est malheureusement après les attentats du mois de novembre. Et les Lyonnais se sont réappropriés la fête des Lumières parce que justement, il n'y avait plus de touristes. C'est vrai que le 8 décembre, on a l'impression comme dire que l'objectif, c'est de venir 3, 4, 5, 6, 10 millions de personnes, ce qui fait que les Lyonnais ne viennent plus dans les endroits durant la fête des Lumières. J'ai l'impression que c'est la même chose dans le Vieux-Lyon, c'est-à-dire qu'il y a tellement de restaurants touristiques, de magasins touristiques, qu'on préfère aller dans d'autres endroits qui sont plus vrais, plus authentiques, alors que c'est complètement faux, puisque actuellement, on peut se régaler quand on reste confiné, qu'on va regarder les images et les photos du Vieux-Lyon. C'est important, ce genre de choses, je crois.
C'est vrai, et en plus, bon, je dirais que l'image de surtourisme que certains voient quand on parle de Vieux-Lyon, en fait, est extrêmement localisée sur un bout de la rue Saint-Jean. En réalité, dans les rues parallèles, et si on va à Saint-Georges ou à Saint-Paul, il y a également des choses magnifiques à voir, même si c'est moins piéton, même si c'est moins touristique. C'est vrai qu'il y a des choses vraiment à découvrir aussi. Ce sont des quartiers qui ne sont pas du tout surfréquentés par les touristes. C'est vraiment très, très localisé pour ce qui est du Vieux-Lyon, et on voudrait donc que le tourisme, qui va reprendre de toute façon très lentement, soit plus étalé et dans l'espace et dans le temps. Tu parlais du 8 décembre, c'est évidemment le jour où on a le plus de mal à se promener dans Lyon en général, et dans le Vieux-Lyon en particulier, où on a carrément des bouts de rue qui sont à sens unique, mais c'est vrai aussi pour la presqu'île. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas, sens unique pour les piétons.
Ouais. Alors, il y a des endroits qui sont merveilleux. La rue Ferrachat, la rue Saint-Georges, il y a la rue du Doyenné. Et là, on a vraiment de l'authentique, quoi.
La rue du Doyenné, on va sortir là, une petite interview en fait des commerces qui ont permis, enfin les commerces essentiels, jugés essentiels, qui ont permis donc aux habitants de continuer à manger et à boire. Mmh. Et on se rend compte effectivement qu'il y a une petite oasis dans le Vieux-Lyon qui a su vivre survivre même, je dirais, à l'assaut de tous ces commerces de bouche, pas forcément de très haut de gamme et qui comptent vraiment sur le passage du tourisme une seule fois. Hein. Mmh. On voit bien donc qu'on a quand même sur une même rue fromager, boucher, caviste et boulanger. Hein, donc, j'ai rien oublié. Donc, c'est vraiment très très rare parce qu'on a presque plus comme ça ces commerces de proximité qui paraissent assez classiques, que l'on retrouve encore sur pas mal d'endroits, sur la presqu'île par exemple, entre Rhône et Saône. Et dans le Vieux-Lyon, on arrive à avoir une boulangerie quelque part, on a quelques petits supérettes aussi, épiciers, mais les épiciers fonctionnent beaucoup aussi avec le tourisme quand on parle avec eux. Contrairement à ce qu'on a pu entendre au niveau national, souvent où les épiciers disaient, les gens vont moins loin, les paniers sont plus importants, notre chiffre d'affaires augmente. Pour le Vieux-Lyon, ce n'est pas vrai.
Comment tu conçois, alors j'allais dire l'après 11 mai, quoique le 11 mai n'est pas une date symbolique, puisqu'on découvre maintenant que ça peut être le 2 juin pour toute la partie restauration, café, etc., etc. Comment tu conçois l'après ? Est-ce que quand tu dis pas de retour à la normale en un mot, l'apostrophe, ça veut dire que ce qui s'est passé avant ne doit plus revenir dans le futur ?
Alors, il y avait déjà des réflexions et des volontés, aussi bien au niveau de la ville, mairie centrale, qui a un peu la main là-dessus, qu'au niveau donc de la métropole, d'agir sur les loyers et sur le prix du foncier. Oui. Donc là, il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose de décisif et de plus important, avec un impact plus rapide, qui soit décidé pour qu'effectivement des familles, des gens qui viennent s'installer sur Lyon puissent réfléchir à s'installer. Quand je parle du Vieux-Lyon, en réalité, ça vaut pour tout le site historique. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on peut parler du plateau de la Croix-Rousse, des pentes de la Croix-Rousse, de la Presqu'île, voire même du 6e et de la bordure du 3e, 7e. Hein. Donc, pour que les gens puissent s'installer à nouveau, il faudrait vraiment donc qu'il y ait une baisse du prix du foncier, mais aussi qu'il y ait du logement social, il y en a déjà pas mal, mais au moment d'acheter, vraiment déterminant. Le prix de l'immobilier actuel ne permet pas de s'installer pour une famille qui n'a pas au moins les deux parents qui travaillent avec un bon salaire, de s'installer sur le centre de Lyon. Donc ça, on aimerait bien que cette mixité soit gardée, et pas seulement sur le parc de bailleurs sociaux, mais aussi sur le parc privé, et par une possibilité d'acheter aussi. Et la deuxième chose, à notre avis, qui est très très intéressante, c'est que là, on avait des premières décisions, disons, en tout cas réglementations qui ont été mises en place au niveau national sur les locations type Airbnb. C'est bien d'avoir des législations, mais il faut vraiment se soucier de leur application.
Ah, mais totalement.
Et là, il y a un vrai problème qui s'est posé sur les autres villes. Hein, Paris aussi a ce problème-là. Comment est-ce qu'on fait appliquer une réglementation qui limite le nombre d'Airbnb? Et là, on est presque arrivé à un niveau où non seulement il ne faut plus augmenter, mais il faudrait presque à nouveau réduire cette part de logement qui permet de faire rentrer beaucoup d'argent pour les propriétaires, mais qui en fait tue le quartier, fait augmenter les prix de l'immobilier de façon majeure et tue complètement le quartier parce que les gens qui viennent passer 3 jours, 4 jours ne se font pas à manger, ne vont pas chez le boucher. Enfin voilà, la plupart du temps, ils sont là de passage et on est à la limite de l'hôtellerie en fait, sans avoir toutes les prestations.
Ah bah totalement, complètement. Ok, bah écoute, cette réflexion est quand même bien, parce que bon, tu me dis parler de Venise, tu me parlais de Bucarest, tu me parlais aussi de pas mal d'endroits assez importants. Je ne vais pas cacher la
Dubrovnik,
vérité,
Barcelone,
ouais, c'est aussi la
ouais. Dubrovnik,
réflexion qu'il y
Barcelone.
a en Avignon, puisque le festival est annulé,
Oui,
mais ça va
bien sûr.
permettre aussi peut-être aux responsables de théâtre d'éviter de louer pour un mois à des compagnies à 30 000 euros, ou des gens qui
Exactement.
passent de location d'hébergement de 20 euros à 90 euros. Ça va permettre à tout le monde de réfléchir. Et puis, je finirai juste sur un truc que tu as mis sur le communiqué de presse, que je trouve très joli. Sauvegarder, c'est garder sauf, c'est garder vivant. Et je trouve que là, c'est un équilibre entre les intérêts de tous. C'est exactement ce que tu mets par écrit. Et je trouve que c'est très juste. Comment est-ce que je fais
Merci.
pour retrouver Renaissance du Vieux Lyon?
Et bien justement, j'allais te dire, alors il se trouve que cette réflexion sur un équilibre à trouver pour garder vivant le quartier, ça
Oui.
veut dire garder vivant, ça veut dire garder habité aussi, c'est une composante donc qui était présente dans la reconnaissance de l'UNESCO. C'est-à-dire qu'on est
Ouais.
sur un site historique qui est habité de bout en bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va à Rome, par exemple, le forum aujourd'hui n'est plus habité.
Ah bah non.
À Lyon, le forum est encore habité. Fourvière, il y a encore des habitations, il y a encore une activité religieuse qui s'y fait, etc. Donc c'est cette continuité en fait qui était reconnue pour la valeur du site historique. Donc il est important qu'on le continue et on a justement sorti un livre l'an dernier sur cet anniversaire en quelque sorte, enfin cette reconnaissance de l'UNESCO en 98. Donc il y a un livre sur le site de l'UNESCO et dès 2014, quand on avait fêté les 50 ans en fait du secteur sauvegardé. Donc, qui avait permis de ne pas détruire le Vieux Lyon, on avait fait un livre qui s'appelait déjà Sur le fil. Sur le fil, donc, comment est-ce qu'on fait pour garder l'équilibre, comment on fait pour sauvegarder, en fait, garder vivant un quartier. Et c'était tout un tas de réflexions avec des interviews donc d'habitants, de spécialistes qui sont dans ce livre et dont on espère aujourd'hui se nourrir pour prendre les bonnes décisions après cette crise sans précédent. Sur les 10 dernières décennies, qui va sans doute repartir d'un bon pied, en tout cas on va tout faire pour. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ajoute que bon, actuellement la mairie du 5e arrondissement a créé des groupes de travail et je pilote justement le groupe de travail qui s'appelle Tourisme et Patrimoine. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut articuler ça sur tout l'arrondissement, mais en particulier bien sûr sur le Vieux-Lyon.
Écoute, espérons que tout se passe pour le mieux, espérons qu'on puisse sortir et qu'on puisse rapidement reprendre des activités naturelles et normales, et puis surtout qu'on garde ces très mauvais souvenirs comme un souvenir. Voilà.
Voilà, exactement. On se retrouve de toute façon sur Facebook ou sur le site internet. Et si des gens veulent nous retrouver, on peut nous retrouver très facilement. Renaissance du Vieux Lyon, dans n'importe quel moteur de recherche. On arrive tout de suite.
Ben écoute, je te remercie.
Merci aussi, à bientôt.